Jeu d'épreuve.
Une émission de Joseph Massé-Scarron.
Bonjour et bienvenue à Jeu d'épreuve, une émission littéraire de France Culture. La règle du jeu, je vous le rappelle, nous avons choisi pour vous de passer à l'épreuve du débat quatre ouvrages. Chacun des chroniqueurs ici présents vous présente un livre qui vous donnera, je l'espère, ce goût de lire ou de relire. Quatre livres donc, il s'agit de Paris, musée du XXe siècle, le 10e arrondissement de Thomas Clair chez Gallimard, de la beauté de Sally Smith chez Gallimard, de Songe de Mavlido d'Antoine Volodine au Seuil, et des Hauts de Moscou, Moskokawa de Vassili Aksionov chez Actes Sud. Auparavant, je vous présente nos quatre chroniqueuses et chroniqueurs. Cécile Guilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, critique. Alexis Dacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Marianne. Nathalie Chrome, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama. Et Alexis Libart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique également. Nathalie Chrome, vous nous présentez Songe de Mavlido d'Antoine Volodine qui vient de paraître aux éditions du Seuil.
Je dis quand même en deux mots qui est Antoine Volodine parce qu'il est hélas encore éventuellement nécessaire de le présenter alors même qu'il y a plus de 20 ans qu'il écrit et que sa bibliographie est quand même assez nombreuse.
Hein. C'est simple, c'est un personnage romanesque d'Antoine Volodine.
Lui-même.
Voilà.
Mais vous parlez de qui, d'Antoine Volodine?
Oui.
Oui, bah lui-même, il dirait lui-même qu'il était plutôt un narrateur de l'univers littéraire d'Antoine Volodine. On a cette impression qu'il appartient complètement à l'univers littéraire qu'il a créé et qu'il en est une émanation plus qu'un, au moins autant qu'un créateur. Et c'est aussi effectivement ce qui fait en partie le prix et la singularité, je pense, d'Antoine Volodine, qui donc écrit des romans qui sont, je dis des romans pour faire simple, hein, lui il dirait autre chose, mais des romans ou des fictions qui sont qui participent les unes après les autres au fil des années du même univers et de l'exploration du même univers qui est vraiment l'univers de Volodine. Qui est un univers assez étrange qui à la fois ressemble beaucoup au nôtre et à la fois s'en sépare par une réelle étrangeté. Disons que le monde dans lequel évolue ce personnage de Mavlido, qui est le monde dans lequel évoluent de façon générale les personnages d'Antoine Volodine, c'est un monde qui semble un monde d'après l'Apocalypse, une terre où serait survenue une guerre, une terre où beaucoup de révolutions auraient eu lieu, des révolutions dévoyées, des massacres, des phénomènes de concentration, d'extermination. Et Volodine est un peu l'observateur et le metteur en scène de ce moment historique de la Terre, qui encore une fois donne l'impression à la fois d'être une anticipation de ce que la Terre pourrait devenir et en même temps d'être aussi le constat de quelque chose qui s'est déjà produit de l'histoire des hommes au XXe siècle, quoi. Mavlido, quand on fait sa connaissance, il a une cinquantaine d'années, c'est un homme qui vit dans une...
C'est un policier.
On ne connaîtra jamais trop l'époque, mais on peut penser que c'est quelques centaines d'années après notre ère. Mais finalement, il y a quelques références qui permettent de le penser, mais on s'en fout un
21e
peu.
21e ou 22e siècle, c'est
oui,
pas d'importance.
Oui, peut-être un peu plus tard même. Ouais. Et Mavlido va ce personnage de policier qui vit avec une femme qui a à peu près le même âge que lui. Ils habitent dans un quartier. Qui s'appelle
le Poulailler 4,
qui est un quartier très hanté par des par des créatures, des vieilles femmes qui passent leur nuit à hurler des slogans aux politiques auxquels on comprend pas vraiment grand chose, une sorte comme ça de sous-humanité un peu perdue, un peu dévastée. Mais Vlido va un jour se mettre en marche pour aller rechercher, se mettre sur les pas d'une femme qu'il a aimée et qui est morte. Mais dans l'univers de Volodine, en fait, il n'y a jamais vraiment de séparation entre le passé et le présent, entre la vie et la mort. Il n'y a pas d'étrangeté forcément à aller rechercher quelqu'un qui est mort, qui a disparu, puisqu'il y a quand même l'avantage de cet univers un peu étrange et inquiétant, c'est qu'il y a toujours quand même l'espoir qu'on peut finalement peut-être retrouver quelqu'un par-delà la mort et par-delà les années. C'est un peu difficile d'en parler plus précisément. Moi, je voudrais citer en fait un passage d'un livre qui est consacré à Antoine Volodine, une monographie signée Lionel Ruffel qui paraît aux éditions Cécile Defaux. Et qui écrit, c'est assez bref, hein, je ne vais pas faire très long, de quoi parle la littérature de Volodine. Rien d'un certain présent, celui du monde occidental par exemple, ne semble se donner directement à lire dans cette œuvre. Rien de notre vie quotidienne, rien de documentaire ou de réaliste. Et pourtant cette étrangeté ne nous est pas étrangère, elle nous est même familière. Cette étrangeté n'est pas exotique, comme une image inversée de notre réalité, elle est post-exotique. Post-exotisme étant la manière dont Antoine Volodine, enfin le mot qu'Antoine Volodine a inventé pour qualifier son univers et son univers.
Alexis Barthes.
Écoutez, post-exotique, je ne sais pas. En tout cas, c'était incontestablement un roman étrange. Quand on rentre dedans, on est très très vite perdu. Enfin, en tout cas, moi j'étais très vite perdu. Je me suis demandé où j'étais, dans un rêve, dans une autre réalité. On flotte, comme le héros d'ailleurs flotte dès le début du livre. Et on est encore plus désorienté que lui, pour être tout à fait honnête. Alors là, on hésite. Enfin, moi j'hésitais entre deux tentations, qui étaient celle de dire « j'y comprends rien » et de fermer le livre en pestant. Et la deuxième tentation, qui était celle de se laisser engloutir par cette espèce de flot littéraire. Finalement, j'ai choisi de me laisser aller. Mais en fait, j'ai choisi de me laisser aller sans avoir vraiment le choix, parce que j'avais le sentiment que je ne pouvais pas en rester là. Alors, on se laisse couler, je ne dirais pas avec plaisir ou avec volupté, mais parce que effectivement, on ne peut pas faire autrement. Alors, comment qualifier ce livre ? Alors, moi, j'en suis absolument incapable. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Par certains aspects, bien sûr. Ça se passe apparemment, effectivement, comme vous le disiez, Joseph Massescaron, quelques siècles après le nôtre. C'est peut-être le 22e, 23e, 24e, on ne sait pas trop. Mais ce n'est pas vraiment de la science-fiction. C'est, en fait, je pense que ça ressort plutôt du conte onirique. C'est une sorte de conte onirique qui se présente sous la forme d'un rêve ou peut-être d'un cauchemar, et en même temps qui prend très très bien le lecteur, et on en sort un peu désorienté et en même temps un peu grisé. Alors ça, cela dit, quand même un bémol, il y a une petite afféterie dans le livre qui revient souvent et qui moi m'a beaucoup irrité. C'est une petite afféterie à la Hango, les répétitions du type la nuit n'était pas terminée, point, la nuit, point, n'était pas terminée, point. Alors la sixième fois où il fait ça, j'ai trouvé ça un peu lassant dans le livre, mais cela dit, je chipote, c'est un livre étrange, prenant, et c'est un livre qu'il faut lire.
Ben, moi c'est pareil, je dois vous dire que j'ai eu le même sentiment d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, même comme lecteur, qu'Alexis Liebhardt. Et à un moment je me suis dit, est-ce que je continue la noyade ou est-ce que j'essaye de me raccrocher à des bouées de sauvetage, donc de fermer le livre. Mais je pense qu'on peut conseiller vraiment à vos auditeurs, Joseph Massescaron, de poursuivre la noyade. Parce que la leçon de Volodine...
Comme vous y allez.
Non, mais c'est vrai, c'est une sorte de dérive bienheureuse.
On fait quand même plus entraînant pour présenter un livre.
Écoutez,
pour le défendre.
Attendez, j'ai pas tout à fait terminé de faire l'article de ce livre. Non, je pense que c'est un livre déroutant, et là, faut le dissimuler à personne. C'est peut-être un livre même qui tombe des mains à certains moments, mais en même temps, Nathalie Crome, je vous rassure, je pense que la lecture en vaut la peine. Parce qu'il ne s'agit pas Et ça a été très bien dit.
C'est bien l'avis de Nathalie Crome qu'il faut que tu présentes.
Oui, mais il ne s'agit pas de science-fiction, il ne s'agit même pas de récit d'anticipation, il s'agit de saisir ce qui, dans notre présent, est déjà, si vous voulez, le signe d'un futurisme insupportable. Pour le dire autrement,
On peut montrer les exemples. On peut donner des exemples. Par exemple, le fait que il parle des mutations génétiques qui vont bon train. Là, on n'est pas dans la.
Bien sûr,
dans la fiction.
Il
parle de régime totalitaire. Là, on n'est pas non plus dans la fiction. On n'est ni dans la fiction ni dans la science-fiction. Moi, je trouve que c'est assez semblable, par exemple, à des œuvres telles que les œufs fatidiques de Bulgakov. C'est à ça que ça me fait penser.
Alors, un Bulgakov simplement qui serait, si vous voulez, aspiré par le futur, c'est-à-dire dont le message serait de dire, au fond, dans notre humanité qui est en voie de mutation, si vous voulez. Morale accélérée, qui est moralement en mutation génétique, eh bien, au fond, le futur est déjà arrivé. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce que le regretté Philippe Murray, en consonance d'ailleurs avec les analyses de Peter Sloterdijk, appelait le post-humain. Le post-humain, c'est pas ce qui nous attend au 24e, 25e, 26e siècle, non. C'est ce qui est déjà là, en train de s'effectuer sous nos yeux, dans l'indifférence de la plupart d'entre nous. Et je crois que toute l'œuvre de Volodine, elle peut se lire comme une forme de mise en scène littéraire, Joseph Massescaron, de ce post-humain. C'est pour ça que il faut faire très attention à tout ce qui tendrait à la rabattre sur des tentatives à la Philip K. Dick, qui est par ailleurs évidemment un brillant romancier, mais ça n'a absolument rien à voir avec la science-fiction.
Cécile Gilbert.
Oui, je suis d'accord, ça n'a rien à voir avec la science-fiction, ça n'a rien à voir avec l'anticipation. Moi, je respecte beaucoup Volodine et la cohérence de son univers et de ses obsessions. Je crois que le maître mot chez lui, c'est quand même l'indifférenciation, c'est-à-dire qu'effectivement, une indifférenciation entre la veille et le rêve, entre le vrai et le faux, la vie et la mort, le règne animal, le règne humain, les terrestres et les extraterrestres, enfin bref, l'au-delà et l'ici-bas. Mais à mon goût, c'est un livre totalement racontable évidemment, mais à mon goût, si vous voulez, c'est un peu trop sursaturé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, mais c'est ce qui fait toute la cohérence de cet univers précisément, qu'il s'agit de faire une concaténation de tout ce qui est désastreux et catastrophique. Donc on a un empilement de concepts politiques et biopolitiques et idéologiques qui est tout à fait saturé et qui est presque asphyxiant. Alors moi j'assiste à ça en tant que lectrice, je tourne les pages, je vois jusqu'où il va aller, jusqu'où ça va nous mener. C'est vrai que je décroche un peu parce que je vois trop ça justement, qu'il empile des génocides, des ghettos, des mafias, des guerres, du terrorisme, des autocritiques staliniennes, des mutations génétiques. Vous foutez tout ça dans un shaker, vous agitez, vous avez cette espèce d'univers irrespirable, d'une noirceur sans bornes, avec des ruines, des cendres. Alors évidemment, c'est
une ambiance forte. Et pourtant, c'est pas un pudding littéraire.
Non, et pourtant, les phrases sont quand même assez simples. Comme ça, il arrive, c'est là où il est assez étonnant, c'est qu'il arrive avec comme ça des phrases, l'air de rien, courtes, pas spécialement travaillées, mais à force d'empiler tout ça, ça donne cet univers avec des passes de magie qui sont ni noires ni blanches, avec des chamans, avec des conjurations. Enfin, il y a un peu de tout. Les oiseaux parlent, les hommes dialoguent avec des animaux. Enfin bon, c'est très étrange, c'est singulier. Moi, j'accroche pas trop à l'histoire, mais c'est vrai que cet univers vaut par sa construction comme ça, totalement artificielle, avec, comme l'a dit un très bon critique, c'est une caisse de résonance onirique des désastres passés et présents. Voilà. Mais si on ajoutait tout ça, effectivement, et les uns sur les autres,
passé, présent et
on serait dans un roman de Volodine.
Nathalie Crome.
Oui, il y a quand même, au-delà effectivement de cette saturation, il y a quand même aussi effectivement, cette phrase que vous citiez le dit, Cécile Gilbert, il y a quand même une dimension onirique, poétique aussi, quand même assez forte chez Volodine, qui effectivement n'est pas un auteur facile. Mais en l'occurrence, ce livre-là est quand même peut-être plus facile d'accès que d'autres parce qu'il est beaucoup plus linéaire, il y a beaucoup moins de bifurcations temporelles et d'incertitudes sur le statut des personnages chez Volodine. Il est fréquent qu'on s'interroge un peu au bout d'un moment pour savoir si le personnage qui est en train de parler est finalement véritablement encore un être humain ou s'il n'est pas déjà autre chose ou quelque chose d'autre qu'un humain, un post-humain avec des plumes, avec je ne sais quoi, ou si on est effectivement dans le royaume des vivants, le royaume des morts. Là, c'est vrai qu'on est quand même dans un roman plus facile, oui, et je trouve qu'en plus le personnage de Maeve Lido est peut-être plus il est plus facile peut-être de s'attacher à ce personnage qu'à d'autres personnages d'Antoine Volodine, comme c'était le cas pour Dondog il y a quelques années. Je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien dessiné, qui a même des ressorts presque psychologiques qui nous touchent assez directement. Je trouve que la relation qu'il a au début du livre avec la compagne avec qui il vit est assez belle. Enfin, leur quotidien est à la fois assez tragique et assez beau. La façon dont il se met en route pour retrouver cette femme qu'il a perdue est très belle. Et encore une fois, je trouve que ce livre, comme tous les livres de Volodine, est aussi saturé au-delà d'être saturé de toutes les catastrophes qui guettent ou qui ont déjà touché l'humanité, il est aussi saturé d'images qui pour moi, viennent aussi de l'enfance quelque part, des images de rêves ou de cauchemars qui sont finalement assez enfantins et qui peuvent toucher assez directement.
Je rappelle donc le titre du roman d'Antoine Volodine, Songe de Mévlido, et c'est au Seuil, vous êtes sur France Culture. Merci Alexis Lacroix, merci Nathalie Chrome, merci Alexis Libart, merci Cécile Gilbert. Rappelle les quatre ouvrages que nous avons soumis à l'épreuve de notre jeu. Il s'agit de la beauté de Zadie Smith chez Gallimard, de Songe de Mévlido d'Antoine Volodine au Seuil, des Hauts de Moscou de Vassili Aksionov chez Actes Sud et de Paris Musée du XXIe siècle, le 10e arrondissement de Thomas Clair chez Gallimard. Like a knife.